Et maintenant, place au théâtre.
Cet avant-dernier épisode s'ouvre avec une vedette oubliée de la belle époque et des années folles, Cécile Sorel, comédienne, reine des planches et sociétaire de la comédie française.
Laissez-moi remercier Molière. C'est à lui que je dois tout. Il m'a créé, il m'a magnifié.
Cécile Sorel est née en 1873, au moment même où balbutiait la Troisième République. Et quand Sorel évoque Molière, on peut se persuader que c'est la voix de notre République reconnaissante.
Que de pays nous avons gagné avec le misanthrope, que de peuples sont venus à nous, que de gens criaient « Vive la France » après le misanthrope. Mais Molière est notre plus grand ambassadeur et je le remercie de toute mon âme.
Oui, Molière, malgré lui, a été associé au rayonnement de l'État-nation. Et tout au long du XXe siècle, il fut, en France, un enjeu politique.
Le 4 septembre 1870...
Citoyens de Paris, la République est proclamée.
Quand est née la Troisième République, les institutions ont cherché à dépouiller Molière de ses habits monarchiques au profit du génie universel de la langue française. L'adversaire des dévots, sorte de républicain avant l'heure. L'artiste éclairé du Palais Royal est devenu la référence incontournable du bréviaire républicain, célébré par les manuels scolaires.
Oh mon Dieu, l'impertinence !
Ainsi, de Jules Ferry aux tranchées de la Première Guerre mondiale et de la comédie française sous occupation allemande jusqu'à la décolonisation, l'œuvre de Molière a accompagné l'histoire de France depuis 150 ans. Je vous promets que vous allez découvrir ici un Molière très inattendu.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Nous allons parler du théâtre.
Du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit.
Que l'on commence !
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Molière, le chien et le loup.
Molière, vous avez su infiniment nous plaire.
9e épisode, le héros républicain. Le sacre républicain de Molière s'enracine dans la guerre de 1870 entre la France et la Prusse.
Oh, mince ! Je vais l'assumer !
Après avoir été défait à Sedan, Napoléon III voit le Second Empire s'effondrer.
Il ne me reste qu'à remettre mon épée entre les mains de votre majesté.
Prisonnier des Allemands, le neveu de Bonaparte,
Napoléon,
abandonne Paris, encerclé par les troupes de Bismarck. La capitale résiste au siège et le 21 décembre 1870, alors qu'il fait moins 15 degrés,
messieurs,
le général français Ducrot tente une sortie.
Cette sortie en masse est notre seule chance de succès. Chacun de vous porte ce soir le dernier espoir de la patrie.
L'offensive de la jeune République française est stoppée dès le lendemain. Échec total et un cessez-le-feu est signé le 26 janvier 1871.
Et Félix, tu viens ? Arrête les Prussiens, on va à Paris tout à l'heure par les Champs-Élysées.
Victorieux, les Prussiens entrent dans Paris le 1er mars.
Je vais pas les recevoir, allez, tu viens ?
Mais les gamins de Paname refusent la défaite.
Tiens, on va les renvoyer sur la figure tous les cailloux des Champs-Élysées.
Les cailloux n'y changeront rien. Cependant, cette guerre perdue contre la Prusse permet à la France de renouer avec le régime républicain. Mais cette Troisième République a besoin de légitimité et elle doit se bâtir une identité. Pour rivaliser avec la culture allemande triomphante, il faut brandir une culture française dont on est fier. Et c'est là qu'intervient Molière. Néanmoins, ce n'est pas si simple de l'intégrer à la République. Il faut contourner quelques obstacles.
Alors, il y a plusieurs enjeux dans le sacre républicain de Molière sous la Troisième République.
L'historien Martial Poirson.
Le premier, c'est évidemment de démonarchiser le rapport à cet auteur qui fut, et tout le monde s'en souvient, le favori de Louis XIV. Et donc, une des astuces, elle est trouvée par Théophile Gautier qui parle de Molière comme d'un bourgeois de la fronde. Autrement dit, comme quelqu'un qui fait partie de la fraction éclairée de son temps, qui se caractérise donc par une forme de libéralisme qui est celui de sa condition sociale d'appartenance, hein, la corporation des marchands tapissiers, qui est donc une sorte de progressiste avant l'heure, à sa façon, qui est quelqu'un qui également est héritier de la fronde, dans laquelle il a passé notamment toutes ses années de province, et qui donc va avoir à la fois un rapport de distance et de proximité avec cette monarchie qui est la condition même par laquelle il peut travailler et donner toute la plénitude dans son art, et en même temps par rapport à laquelle il est toujours dans une attitude de déférence, ce qu'on pourrait appeler de la courtisanerie. Donc Molière fait partie de ces auteurs, comme La Fontaine, pour les mêmes raisons, qui peuvent être sauvés par cette République de ce grand siècle, qui est quand même une production absolument liée en tout point à Louis XIV. Donc la première chose, c'est ça, c'est d'arriver à montrer que, même proche du roi, il faisait un pas de côté, qu'il s'est jamais compromis, qu'il n'y a aucun texte de lui qui soit ouvertement un acte d'allégeance.
Je vous aime bien, Molière.
L'esprit républicain voit donc en Molière un horizon.
Parce que vous avez du courage et que vous êtes saint, vous êtes une sorte de modèle du français moyen tel que je veux le bâtir. Il existe sous la carapace des clameurs, de l'anarchie, de la révolte. Bien, je veux arracher la carapace et découvrir au monde l'homme français que vous avez découvert avant moi.
Le deuxième élément, c'est de reconnaître en lui la quintessence de l'esprit français, qui peu à peu, dans la rhétorique des républicains, va devenir le génie français, qui peu à peu va devenir l'esprit du peuple français. Et là, un nouveau tour de passe-passe permet de dire que finalement, cet artiste gaulois, qui se caractérise par un humour scatologique, un humour fait d'équivoques sexuels, un humour peuple, quoi, qui donnera également lieu un peu plus tard à l'idée de Molière comme bienfaiteur de l'humanité, comme celui qui va exprimer avec un très grand bon sens son jugement sur ses contemporains. Et j'en veux pour preuve deux citations. Sainte-Beuve, d'abord, qui dit « Aimer Molière, c'est ne pas mépriser toute cette commune humanité dont on rit, dont on est, et dans laquelle on se plonge chaque fois avec lui, par une hilarité bienveillante. » Ça, c'est une citation donc dans Les Nouveaux Lundis en 1863. Et on voit bien que cette hilarité bienveillante, c'est aussi une réponse à l'ironie mordante d'un Voltaire, à cette vision sarcastique, à cette vision fondamentalement malveillante qui est prêtée donc au sens critique des Français. Et là, la réponse, c'est Molière, justement, comme un rire qui n'est pas un rire de surplomb, un rire qui est un rire de quelqu'un qui veut corriger les mœurs sans brusquer les consciences. Et la dernière idée, peut-être la plus importante, c'est celle qu'on trouve chez Brunetière dans un texte tout à fait important qui s'appelle « L'idée de patrie » en 1896, où il fait justement la théorie de cette race gauloise en disant « Molière est l'incarnation du génie national », donc l'écrivain national, je cite « parce qu'il a les qualités les plus intérieures de l'âme nationale. C'est le miroir inaltérable où plusieurs générations de Français se sont reconnues. » Et donc là, on a la troisième composante finalement du génie national, c'est la capacité de transmission intergénérationnelle. C'est la capacité à faire mémoire ensemble et à fonder une histoire commune dans laquelle va s'inscrire et s'enraciner, au sens propre comme au figuré, le récit national. Donc voilà trois tour de passe-passe idéologique pratiqué par les théoriciens de cette jeune république et qui sera aussi la première république durable en France et qui vont donc faire de Molière le fer de lance de cette fierté nationale que beaucoup de peuples étrangers nous reprochent comme une forme d'arrogance et qui est donc une des caractéristiques de ce fameux esprit français.
16 juin 1881, il y a 100 ans aujourd'hui, l'école publique française, celle qui nous a formés, celle que nous aimons, est née. La République, proclamée depuis 11 ans, instituée depuis 6 ans, commence seulement d'exister dans les faits. Le 16 juin, Jules Ferry, après des années de combat, fait voter la première loi scolaire, celle qui institue la gratuité de l'enseignement primaire.
Toujours dans ce registre républicain, Molière est aussi très utile à l'école de la République. Pour quelle raison, Marcel Poisson ?
Molière est considéré à la fin du 19e siècle comme l'instituteur du genre humain. On va évidemment éliminer des programmes officiels de la nouvelle instruction publique récemment étendue à toutes les classes de la société, hein, l'école élémentaire pour tout le peuple, les garçons d'abord, puis les filles. Et donc tout à coup on cherche un socle commun, on cherche des textes canoniques susceptibles de circuler dans les manuels, on cherche des programmes de concours, et on va trouver dans l'aimable Molière, hein, celui qu'on appelle l'aimable Molière, une forme de leçon de morale dramatisée. Le théâtre de Molière, et c'est très intéressant d'ailleurs, puisque Molière lui-même avait été formé à l'école des Jésuites, qui utilisait elle aussi, bien qu'elle s'en dédise, le théâtre comme un outil pédagogique. Donc on retrouve cette mission pédagogique exercée par le théâtre et qui permet finalement de développer un enseignement extrêmement pratique et en même temps, sans toujours le dire, quoique ce soit quand même parfaitement assumé, en imposant également le français comme la langue de Molière. C'est le moment où cette expression qui est devenue idiomatique et qu'on retrouve jusqu'au XXIe siècle, hein, cette langue de Molière s'impose à ce moment-là contre les patois et comme une forme d'unification du peuple par la langue qui passe par une véritable guerre contre les parlers régionaux qui sont aussi les langues familiales, les langues de l'intimité, les langues de la sphère privée. Hein, donc parallèlement à cette interdiction de l'utilisation des patois à l'école, ou des dialectes, ou des langues régionales, ce qui est plus conforme à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui. En tout cas, cette langue de Molière est là aussi un outil d'unification, ce qui n'est pas peu paradoxal quand on pense que Molière s'était vu refuser l'entrée à l'Académie française pour la simple raison qu'il était comédien. Donc il y a une sorte de retour à une vision normative de la langue qui s'impose deux siècles plus tard. Sauf que Molière, s'il est présent de façon assez massive dans les manuels, l'est au prix d'une réduction drastique du répertoire. Hein, parmi les 30 et quelques pièces du répertoire moliéresque, on en retrouve principalement 4 qui sont republiées, commentées de façon obsessionnelle. Le Misanthrope, considéré comme le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, ce qui est d'ailleurs là aussi assez ironique quand on voit le rapport que Rousseau pouvait avoir à cette œuvre qu'il considérait comme profondément immorale et qui justifiait pour lui l'interdiction du théâtre de Molière. Tartuffe, qui est considéré comme la grande pièce de combat anti-religieux qui va accompagner tout le processus de laïcisation et de sécularisation de la société française. L'avare, qui est la comédie de caractère par excellence, qui est une sorte de réflexion morale sur les vices, les pulsions, voilà, une leçon de morale. Et enfin, les femmes savantes, dans un rapport ambigu avec des commentaires qui sont parfois assez ambivalents, puisque on salue évidemment l'éducation des femmes, qu'on est considérée comme une nécessité civilisationnelle, mais qui est aussi présentée comme un danger, et donc il y a une sorte de lecture un peu duale de ces femmes savantes. Et à la marge, une farce parmi ce palmarès, qui est donc les Fourberies de Scapin, indéfiniment rejouées, mais considérées quand même et présentées dans les manuels comme une œuvre plus mineure, parce qu'à la fois elle porte la trace du peuple, elle est cette vision d'un comique populaire, d'un comique ordurier, d'un comique scatologique, et donc légitime comme une émanation justement de cette France gauloise qui est revendiquée par le théâtre de Molière, et en même temps donc considérée comme littérairement plus faible.
Voilà, monsieur.
Quoi ?
Mais où est donc cet argent ?
Te l'ai-je pas donné ?
Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche.
C'est la douleur qui me trouble l'esprit.
Je le vois bien.
Que diable allait-il faire cette galère ?
Oui.
Oh, maudite galère.
Oui.
Et il y a aussi des grands absents dans ce palmarès, en particulier l'école des femmes, où on considère que finalement la désinvolture, le caractère proactif de certains personnages féminins n'est pas conforme à l'idée qu'on se fait à l'époque encore de la morale bourgeoise, de la place de chacun dans la famille, des assignations de genre. Et puis le malade imaginaire, où le personnage de Toinette est là carrément considéré comme un personnage qui est pas à sa place, à la fois comme domestique et comme femme. Hein, donc on voit bien que ce répertoire républicain, il reste quand même prisonnier d'une certaine façon d'une morale bourgeoise. En tout cas, sur la question des rapports de genre, c'est très très net.
Ce qui est vraiment troublant en vous écoutant, Marcel Poisson, c'est que cette, entre guillemets, épuration républicaine du répertoire de Molière, elle s'est perpétuée pendant tout le siècle. Vous évoquiez Tartuffe, le Misanthrope, l'Avare, Les fourberies de Scapin, c'est ce qu'on étudie encore au lycée aujourd'hui, quasiment. Ça n'a pas beaucoup changé, en vérité.
Absolument. Et c'est une des découvertes les plus frappantes de ce dépouillement un peu systématique que j'ai fait des manuels sur un siècle, c'est que le discours a très peu changé, les stéréotypes ont très peu changé, les raccourcis biographiques ont très peu changé, et finalement, la lecture moraliste, voire moralisante du répertoire de Molière reste quand même extrêmement active, bien que l'état de la conscience collective ait quand même notablement changé. Et ce débat, notamment actuellement, sur Molière féministe ou misogyne, reste extrêmement actif, y compris dans les milieux savants. Et quand on regarde un manuel un peu canonique comme le Lagarde et Michard, c'est une sorte de condensé absolu de tous les stéréotypes attachés à Molière depuis son sacre républicain sous la Troisième République.
Donc vous présentez, André Lagarde, une édition, comment dire, revue, corrigée,
remaniée,
de votre célèbre collection de 6 volumes.
6 volumes.
Du Lagarde et Michard, devant lesquels nous avons tous souffert.
Je ne veux pas vous laisser tout de même sur cette expression de souffert. Les personnes que je rencontre longtemps après leurs études me disent « Monsieur, j'ai souffert, je vous remercie, les livres sont dans ma bibliothèque ».
C'est la guerre.
Alors, l'étape suivante dans l'intégration de Molière à la République, elle est assez surprenante, Martial Poisson. Il s'agit de la Première Guerre mondiale. Quel rôle joue Molière dans ce conflit du côté français ?
Pendant la Première Guerre mondiale, Molière, alors c'est pas, il n'est pas le seul, hein, il fait partie d'un corpus de textes canoniques qui comprend aussi bien Racine, Corneille que Molière, mais en tout cas il a une place un peu particulière puisque au moment où l'administrateur de la Comédie française, Émile Fabre, en 1916, invente le théâtre aux armées, hein, le projet c'est d'aller apporter du réconfort aux troupes sur les lignes de front, de solliciter les candidatures de grands comédiens et de grandes comédiennes de la Comédie française, de l'opéra, mais aussi des théâtres de boulevard, des folies bergères, du cinéma, et voire même des théâtres privés. Hein. Donc il y a tout un ensemble de stars qui débarquent comme ça sur la ligne de front, qui font acte de solidarité et qui, d'une façon quasiment bénévole, vont offrir à la troupe un certain nombre de pièces.
Nous avons aujourd'hui le très grand plaisir de retrouver Madame Dussane.
Madame Dussane, ce nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, Béatrix Dussane fut une grande comédienne du début du XXe siècle. Amie de Sarah Bernhardt et de Cécile Sorel, elle fut sociétaire de la Maison de Molière. Et en 1956...
Radiodiffusion Télévision Française.
Au micro de la Radiodiffusion Française, elle est venue partager ses souvenirs.
Beaucoup d'entre vous me reparlent, je dis beaucoup, j'exagère. Mais enfin, il m'arrive tout de même encore assez souvent de recevoir dans le courrier des lettres de gens qui se rappellent avoir vu le théâtre aux armées pendant la guerre 14-18 et m'y avoir vu avec mes camarades. Et ils sont bien gentils de se souvenir, cela me touche toujours beaucoup.
Béatrix Dussane fut une des toutes premières à intégrer le théâtre aux armées.
C'est ainsi que j'ai eu, à partir de février 16 et jusqu'en 18, de très nombreuses occasions d'aller un peu partout. Oh non, pas sur le front, ça il faut détruire cette légende-là. Non, nous n'avons pas été des héros, non. Nous allions à l'arrière du front, là où les soldats pouvaient eux-mêmes être un peu détendus, un peu reposés. Nous allions dans les cantonnements d'arrière, de grand arrière. Le premier programme que nous avons donné était devant des éléments de troupes qui allaient former le 21e corps d'armée qui montait sur Verdun.
Alors on a majoritairement des pièces à caractère patriotique dans ce répertoire. Il faut exalter le sentiment national, il faut exhorter le soldat au combat. Donc Corneille, héroïque par excellence, est évidemment le cœur de cible de cette politique. Mais à la marge, on voit effectivement apparaître un nombre assez significatif de pièces de Molière. En particulier, Le médecin malgré lui, Le malade imaginaire, Les précieuses ridicules. Et là, c'est intéressant puisqu'on voit que la fonction est plus tout à fait le même. Elle porte là aussi ce projet national, hein, puisque Molière est l'auteur gaulois par excellence à cette époque-là, gaulois au sens de gauloiserie et en même temps de Gaulle. Et en même temps, il est donc celui qui peut-être va permettre de prendre un peu de distance par rapport à cette promiscuité de la tranchée, par rapport à cette horreur de la médecine de guerre, hein, se moquer des médecins, développer une forme d'humour scatologique fondée sur la question du corps et des humeurs, et peut-être là aussi une façon d'ouvrir sur une vision peut-être moins dramatique que ce qui est en train de se jouer. Et puis pourquoi les précieuses ridicules? Parce que les précieuses ridicules ont un parfum un peu suranné de monde d'avant, de société dont la sophistication un peu vaine va peut-être rassurer le poilu qui vit comme une bête privée de tout et qui va se souvenir qu'il existe effectivement des formes de vie humaine à la fois dérisoire et en même temps réconfortante. Donc Molière, il a une place particulière, puisqu'effectivement, il est un des rares auteurs de comédie à être présent sur ce théâtre au front, qu'on ne peut pas réduire à sa seule mission patriotique.
Est-ce que vous diriez, entre guillemets, que Molière appartient à la culture de guerre? Je veux dire, est-ce que ce théâtre aux armées a permis une diffusion aussi dans les provinces de France de l'œuvre de Molière?
Alors oui et non, c'est-à-dire que les poilus font partie de ces générations qui justement ont bénéficié de l'école libre, gratuite et obligatoire mise en place par les lois Jules Ferry dans les années 1880. Hein. Donc ils ont annonné leur Molière comme tout écolier, quel que soit son origine géographique à l'époque. Mais en revanche, ce qui est assez nouveau, c'est que pour la plupart, c'est la première confrontation au spectacle vivant et au théâtre, et donc à une pratique collective, à une appréciation collective de ce qui est présenté comme les chefs-d'œuvre de la langue française. Et donc là, il y a une expérience de l'ordre de l'émotion artistique qui probablement, pour la plupart de ces jeunes hommes, en tout cas pour la majorité de ceux qui viennent des milieux les plus populaires et en particulier des zones rurales, est la première et probablement la seule expérience du spectacle vivant. Et donc, ils ont la possibilité de voir des grandes stars du répertoire, Sarah Bernhardt, Béatrix de Sannes, et on voit bien dans leur correspondance finalement la façon dont ça peut être pour certains un choc esthétique. Hein, si on regarde les lettres de Poilu, il est question de ces spectacles. Donc on a une espèce de ferveur en fait qui se met en place autour de ces spectacles de guerre et dont il restera forcément une trace dans la génération qui va suivre, même si les choses vont se redéployer probablement après la guerre d'une autre façon, en particulier au moment de, en 1922, au moment du tricentenaire de la naissance de Molière.
Civils et militaires, je vous demande d'applaudir une grande artiste française. Bravo.
Sarah Bernhardt voulut aller elle-même au théâtre aux armées et elle joua à Commercy dans un marché couvert dont on avait fait une salle de spectacle qu'on avait appelée le Poilus Music Hall. Avant le spectacle, j'arrivais un peu en avance et je trouvais trois gars en train de lui arranger une espèce de petit réduit, comme on pouvait faire, avec un peu un rideau, quelque chose pour boucher le carreau cassé, que sais-je. Et ils étaient en train de se désoler, l'un d'eux disait à l'autre « Mais c'est affreux, on n'a que du bleu, on n'a que du bleu, oh, aurait fallu dégoter du jaune, je te dis qu'elle n'aime que le jaune. »
Et la valse bleue horizon qui vous fait passer des frissons, valse guerrière, glorieuse et fière, nos soldats le cœur plein d'entrain, sous le feu narguant le destin, la chante au son du canon, la valse bleue horizon.
C'est la guerre.
À la première succède la Seconde Guerre mondiale. Et Molière s'est à nouveau retrouvé sur le champ de bataille. Si vous avez été surpris d'apprendre que le malade imaginaire ou que les précieuses ridicules ont été joués devant les poilus, vous allez entendre que les années noires n'ont pas ignoré Molière.
Dans ce Paris chloroformé de la drôle de guerre, la comédie continue. Et le 15 janvier 40, Molière a tout de même, comme chaque année, son défilé et sa couronne. Édouard Bourdet est victime d'un accident d'auto. Et en attendant son rétablissement, c'est Jacques Copeau qui assure l'intérim. Mais voici juin 40. Voici l'exode, la défaite, l'occupation.
L'occupation débute à Paris, le 14 juin 1940. Et dès les premières semaines, les autorités allemandes font le tour de la place de Paris.
un certain nombre d'officiers vont être dépêchés dans tous les hauts lieux de la culture parisienne.
Éric Alary est historien.
Pour voir s'il y a une capacité à rouvrir les théâtres et notamment la Comédie française.
Très vite, on fait rouvrir les cinémas et les théâtres parisiens. Cela dit, il y a un souci au sein de la maison de Molière.
Il faut désenjuiver. Il y a notamment le lieutenant Rademacher qui rencontre Copeau pour lui demander quel est le bilan sur le nombre de juifs dans la Comédie française. Et Copeau est très embêté. Traquer les juifs au sein du français, c'est quand même compliqué. Et Copeau a quand même une vision assez patriotique de l'histoire de France. Et il a du mal à accepter aussi l'occupation. Et puis, pour Copeau, comme pour beaucoup de gens de la culture, mais aussi des gens, par exemple, du sport, ce sont des lieux qui sont dépolitisés. Le théâtre n'a pas à être politisé. Donc, le lieutenant Rademacher, le lieutenant Loucht vont, à plusieurs reprises, gêner Copeau qui traîne les pieds, qui n'obéit pas au doigt et à l'œil aux convocations, notamment de Otto Abetz, ce qui fait que le français n'ouvre pas. D'autres théâtres ouvrent, mais pas le français. Et à partir de ce moment-là, un certain nombre d'acteurs et d'auteurs du français se rendent compte que Copeau se met en très grande difficulté. Donc ce sont les acteurs et les metteurs en scène et tous les, je dirais, les agents qui font fonctionner le français, qui vont d'eux-mêmes se retirer, se sacrifier pour permettre à Copeau de rouvrir enfin le français au début de septembre 1940.
Désormais, et pendant d'interminables soirs, des uniformes verts vont franchir le seuil de la vieille maison pour un suprême affront à Molière, à Racine, à Corneille.
Alors, le français finit par rouvrir ses portes. Et là, les consignes allemandes vont être très claires à l'égard des pièces de Molière. Pas de censure, on a le droit de jouer Molière à Paris sous l'occupation. Parce qu'il est inoffensif, en réalité, aux yeux des Allemands, Éric Alary ?
Pour les Allemands, il est certainement inoffensif. Molière, Corneille, Racine, pour eux, font partie de ces auteurs que tout Allemand, culturellement bien constitué, connaît et ne pose, à vrai dire, pas grand problème. Ce qui les intéresse surtout, c'est de ne pas avoir des grands auteurs qui pourraient vilipender la culture allemande. Et ils n'en voient pas, à vrai dire, dans le répertoire de la Comédie française. Et puis, les Allemands jouent beaucoup sur une image qu'ils veulent laisser paraître aux Français, celle d'un Allemand correct. Bon. Et donc, on peut aller jusqu'à dire que finalement, jouer Molière, ça a été pour les Allemands possibilité de proposer aux Français ce qu'ils aimaient et donc, en quelque sorte, de les apaiser. Donc, faites revenir les étudiants au théâtre, qu'ils voient Molière, faites revenir, disent-ils à Vichy, également la bourgeoisie cultivée, les intellectuels français au théâtre. C'est un élément du maintien de l'ordre social, du maintien de l'ordre culturel qui est mis en place par les Allemands. Et les Allemands disent à Vichy, c'est vous, régime de Vichy, qui allez censurer s'il le faut. Donc, finalement, les basses besognes sont pour Vichy et les Allemands ensuite seront là pour la sanction. Mais Vichy se méfie de Molière le laïcard. Ce laïcard mis en place dans les manuels scolaires dans l'entre-deux-guerres. On le sait, Otto Abetz, à plusieurs reprises, dira à l'entourage de Pétain de mettre la pédale douce sur la censure concernant Tartuffe et Don Juan. Et Don Juan et Tartuffe seront joués sous l'occupation, sans aucun problème. Mais Vichy, de temps en temps, essaiera de supprimer tel ou tel passage des pièces de Molière, notamment, et de quelques pièces de Corneille qui sont jugées combattantes. D'ailleurs, elles étaient jouées au théâtre aux armées pendant la Grande Guerre. Et finalement, Molière fait très peur aussi à l'Église catholique, qui évidemment abonde dans le sens du maréchalisme. Ce laïcard Molière, qui ne peut pas forcément plaire au maréchal Pétain, avec toute la morale bigote et la morale vieille France, archaïque et ringarde, qui sied au tout début de son programme de révolution nationale. Mais la révolution nationale n'a jamais été une révolution culturelle. Dans le programme de révolution nationale, il n'y a pas de révolution culturelle.
Décidément, la Comédie française est ces temps-ci au premier plan de l'actualité. Voici qu'un événement vient de se placer, c'est la désignation d'un nouvel administrateur.
Vichy fait nommer à la tête de la Comédie française un nouveau directeur, à la suite de Copeau, qui s'appelle Jean-Louis Vaudoyer.
Les jours sombres que nous traversons nous conseillent et même nous commandent, si nous voulons surmonter l'épreuve actuelle, de placer très haut, quitte à ne pas les atteindre toutes, nos convoitises, nos ambitions.
Alors d'abord, qui est-il, ce Jean-Louis Vaudoyer, et quelle attitude adopte-t-il sous l'occupation allemande à Paris, à la tête de la maison de Molière ?
Alors, Copeau va être donc évincé, et donc effectivement, Vaudoyer, lui, devient l'administrateur titulaire de la Comédie française. Il a franchi toutes les étapes d'une carrière sans vague depuis le début de la guerre. Vaudoyer écrira dans la presse collaborationniste, dans la Gerbe, dans Au Pilori, entre autres. Car les collaborationnistes laissaient une grande place à ceux qui voulaient écrire sur le théâtre, montrant qu'ils avaient un peu de culture, montrant aussi qu'ils surveillaient ce qui se produisait dans le théâtre français. Vaudoyer va, de toute façon, lui, faire jouer tous les classiques. Et il essaie de défendre l'idée qu'il est dans la continuité de ce qui s'est fait avant. D'ailleurs, ça sera très pratique au moment de l'épuration, puisque ce sera l'idée qui sera défendue par beaucoup d'hommes de théâtre collaborateurs qui défendront l'idée qu'ils ont finalement continué à jouer le registre classique. Vaudoyer fait partie de ceux qui sont des admirateurs du maréchal Pétain, qui pensent que le théâtre d'art a beaucoup plus de place dans la culture française que le théâtre de boulevard, que Vichy n'aimait pas du tout. Puisque le théâtre de boulevard est beaucoup plus incontrôlable. Donc Vaudoyer incarne une sorte de noblesse de l'art théâtral français, et Vaudoyer, finalement, va totalement abonder dans le sens de ce que lui demanderont les Allemands et les Français. Pour autant, Molière a pu être discuté au sein même de la Comédie française entre Vaudoyer et ses acteurs. Et notamment, Vaudoyer a commis, aux yeux de ses acteurs dits classiques, une erreur, en engageant Rému, le célèbre acteur comique de l'entre-deux-guerres, une immense star du cinéma français et même du théâtre, mais plutôt du théâtre de boulevard. Donc là, les acteurs plutôt classiques qui jouaient Molière dans l'entre-deux-guerres, un Molière un peu moins comique du reste dans l'entre-deux-guerres, qui est aussi assez terne parfois sous l'occupation. Donc finalement, Vaudoyer a peut-être eu l'idée, nous n'en savons rien, de redonner un peu d'éclat au rire moliéresque sous l'occupation. Donc il engage Rému pour jouer le bourgeois gentilhomme.
Alors, en place, enchaînez.
La dernière répétition se déroule en présence d'une nuée de photographes, de journalistes et de radio-reporters qui, tout à l'heure, pourchassaient, assaillaient, traquaient le malheureux Rému dans tous les couloirs à tableaux et à bustes de la maison de Molière. Car Rému, reprenant le rôle de Monsieur Jourdain, après Molière, Préville, Sanson et Léon Bernard, c'est au premier chef un événement bien parisien.
Catastrophe. Rému est totalement brisé par la critique comme étant finalement un Monsieur Jourdain totalement banal, qui ne fait absolument pas rire et qui finalement ressemble plutôt à un bon bourgeois qui peut-être a cassé tous les codes du théâtre classique. Et à ce moment-là, Vaudoyer va laisser à peine un mois Rému à l'affiche, puisqu'il se rend compte très vite que les autres membres de la compagnie ne veulent pas jouer avec Rému. Donc il y a deux lectures du bourgeois gentilhomme, celle de Rému, qui peut-être avait intégré ce Molière qui avait été républicanisé finalement sans trop de sourire, ou avec moins de sourire et de farce, et puis quand même des acteurs qui, à leur façon, peut-être résistent en essayant de jouer un Molière pré-républicain. Sait-on jamais.
Nous voici comme tous les dimanches matins installés devant l'hôtel de Parc de Vichy. Toujours le même cadre, peut-être aujourd'hui un peu plus sévère que d'habitude, car le ciel est gris, un vrai ciel de neige, et il tombe même quelques flocons.
À Paris, donc, sous l'occupation, on joue du Molière à la Comédie française. Mais qu'en est-il du théâtre à Vichy ?
Dès le début de la guerre, Vichy va essayer de créer une institution durable, qui finalement ne va durer que 17 mois, qui s'appelle Jeune France. C'est une institution qui va créer des maisons dans toute la France, y compris en zone occupée, des maisons Jeune France, Bordeaux, Angers, Tours, etc. Donc cette institution Jeune France a été mise en orbite par le secrétariat général à la jeunesse, qui s'occupera aussi beaucoup du sport et de l'éducation physique. Et donc cette institution Jeune France a existé de novembre 1940 à mars 1940. 1942. Et là, il y a quand même un objectif qui va faire long feu, finalement, parce que Vichy veut absolument tout contrôler dans sa révolution nationale, qui, rappelons-le, est quand même fondée sur une morale bigote, ringarde, etc., et va vouloir réformer, en quelque sorte, les conditions de la création artistique, les conditions du jeu théâtral. Et surtout, la grande idée de Vichy, qui avait, par exemple, banni le professionnalisme dans le sport, eh bien, dans le théâtre, Vichy veut décentraliser. Et on retrouve un peu cette distorsion entre Paris-province que Vichy veut incarner. Cette France des provinces, cette France de la terre, elle, qui ne ment pas. Finalement, la décentralisation a été le maître mot de Jeune France, qui a été fondée par Pierre Schaeffer, qui à l'origine était un ingénieur, qui est entré notamment dans le monde de la radio en 1936, et qui va donc essayer de décentraliser notamment le théâtre français et faire jouer Molière un peu partout en France. Alors, entre-temps, Vaudoyer, lui, travaillera à faire jouer la comédie française à Vichy, et Molière sera joué à plusieurs reprises dès 1942 en grande pompe, à Vichy même, avec beaucoup de succès.
Le misanthrope, hein, notamment, je crois.
Et notamment le misanthrope. Alors lui, Pierre Schaeffer, va s'entourer de grands auteurs, des auteurs de gauche, des auteurs chrétiens. Il va embaucher, par exemple, Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit. Alors très rapidement, Mounier va être exclu à la demande des Allemands et de Vichy, ce qui vaudra d'ailleurs très rapidement aussi la dissolution de Jeune France, parce que Schaeffer s'entoure aussi de gaullistes et finalement écarte tous les hommes de l'extrême droite qui viendront cogner à sa porte pour essayer d'idéologiser ce mouvement théâtral Jeune France, qui est quand même, on va le dire, une fondation pétainiste. Jeune France patronnera tout de même près de 770 représentations théâtrales, c'est peu connu, c'est-à-dire plus de la moitié de la production théâtrale entre novembre 1940 et le mois de mars 1942, c'est-à-dire à la veille du retour de Pierre Laval au pouvoir.
Sur la scène du théâtre français, les changements de décor sont rapides.
Nous voilà maintenant en 1945, au seuil d'un nouveau monde.
Le rideau est tombé. Sur le plateau s'organise une réception. Mettons-nous, l'administrateur, M. André Aubet, prend la parole.
La maison de Molière tient debout. Je ne peux pas vous dire l'émotion que j'éprouve ce soir à la sentir si grandement, mystérieusement et silencieusement tenir debout. Quel devoir impose le fait d'être seulement debout au milieu d'une France dévastée, au cœur d'un monde où tout s'écroule.
En 1945, Marcel Poisson, la France sort dévastée, fracturée par 4 ans d'occupation nazie et 4 ans de guerre, bien entendu. Quel rôle Molière a-t-il joué à la libération ?
Après la Deuxième Guerre mondiale, dans un pays qui est effectivement profondément divisé de part et d'autre de cette question de l'occupation et de la collaboration, Molière va être, en tout cas pour des gens formés au théâtre populaire, comme Jean Villard, l'outil même de la réconciliation. Parce qu'il est l'auteur du consensus, parce qu'il est l'aimable Molière et que donc il a un rire qui n'est pas clivant, parce qu'il est aussi l'émanation de l'esprit de toutes les couches de la société, il va être au cœur du programme du Théâtre National Populaire, créé dans les années 1948, des premières éditions du Festival d'Avignon. On peut considérer que Don Juan et Lavare, les deux grandes mises en scène majeures de Jean Villard concernant le répertoire de Molière, vont être parmi les plus gros succès du Festival d'Avignon. Et Jean Villard dit, voilà, il suffit de regarder la salle pour comprendre que, à travers Molière, le spectateur fait l'expérience de ce que c'est que de faire peuple ensemble et renoue avec une conscience nationale qu'il avait perdue, qui était profondément diffractée par ce qui s'est passé. Hein, donc Molière est vraiment l'opérateur de cette réconciliation nationale, de cette unité de tous les Français, dans la perspective d'un théâtre non clivant, d'un théâtre à vocation consensuelle, d'un théâtre qui renoue avec cette profonde bienveillance que les pères de la République, de la Troisième République, prêtaient à Molière comme le bienfaiteur de l'humanité, comme l'instructeur du genre humain, comme l'ami du peuple. Donc tout ça est réactivé et rendu extrêmement efficace dans le cadre de ce projet, qui est un projet politique.
Au mi-temps du XXe siècle français, plus de 300 ans après sa mort, Molière fut l'illustre champion de la réconciliation nationale après 4 années de guerre civile. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi dire un mot de l'Empire colonial français. Durant les années 1950, des troupes de comédiens ont traversé les mers pour jouer du Molière.
Ce sont de jeunes acteurs qui, pour la 4e année consécutive, vont sillonner l'Afrique noire et monter leur tréteau non seulement dans les grandes villes, c'est ce qui est le moins méritoire, mais aussi dans des localités de brousse où l'on n'eût jamais pensé, il y a peu, voire jamais, de représentation théâtrale.
Oui, voir jouer par exemple Molière en costume.
Oui, oui, et surtout dans ce climat-là, en costume et en perruque, c'est déjà un grand mérite.
Molière fait partie de la mission coloniale qui est imputée aux instituteurs de la République. C'était déjà le projet de Jules Ferry, hein, dans les lois scolaires, que justement de mettre en place un modèle d'éducation par-delà les frontières, jusque dans les colonies, et de considérer finalement l'indigène à éduquer comme un petit enfant. Voilà. Et Molière fait partie intégrante, malgré lui, de ce projet de propagande coloniale, hein, finalement, et en particulier dans les années 20. On a des archives, comme en particulier les archives de Claude Bourin. Claude Bourin était un administrateur colonial, mais également comédien, formé par Copeau et Jouvet, hein, donc formé justement à ce théâtre populaire, à ce Molière populaire. Et il part en Indochine dans les années 10 avec Molière, en pensant qu'il va essayer de relever le niveau du théâtre qui est proposé aux expatriés, dont les correspondances ne cessent d'évoquer l'ennui, la nécessité de distraction, et qui sont plutôt enclins à aller voir du théâtre de boulevard, qui ressemble un petit peu à la vie qui est la leur dans ces contrées lointaines. Et donc Bourin part avec Molière dans l'idée de distraire, mais aussi d'instruire cette administration coloniale, qui comporte toutes sortes de classes sociales, hein, puisqu'on a vraiment toutes les conditions qui sont représentées. Et en fait, il constate, et on le voit dans ses archives, dans sa correspondance, avec une certaine amertume, que ça ne prend pas, en fait. Mais en revanche, progressivement, et notamment à partir des années 1920, ces jeunes anamites, pour le cas de l'Indochine, comme on les appelle à l'époque, ces jeunes indigènes qui ont été formés donc à l'école de la République, vont se passionner pour Molière, mettre en place des théâtres d'amateurs où Molière sera joué en français, fonder des compagnies qui sont généralement liées au milieu universitaire, et surtout proposer les premières traductions de Molière dans ce qui deviendra la langue officielle, la langue nationale, le vietnamien moderne. Donc les premiers textes traduits dans cette nouvelle langue, qui ironiquement avait été inventée par les administrateurs coloniaux pour faciliter l'apprentissage de des langues orientales pour leur personnel, en fait, va devenir un moyen de conscience nationale, en fait. En 1920, on traduit « Le malade imaginaire », qui n'est pas très bien considéré en France. On traduit dans la foulée plusieurs autres pièces. Et très rapidement, en fait, les traducteurs se disent « Bah tiens, finalement, puisque ça marche aussi bien avec des pièces étrangères, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas notre propre répertoire ?» Et donc c'est Molière qui va être, d'une certaine façon, le déclencheur, l'élément déclencheur de cette prise de conscience de la nécessité d'écrire dans une langue autochtone un répertoire théâtral qui soit le reflet de ce projet d'émancipation.
Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour.
Hỡi phu nhân mỹ lệ ơi, đôi mắt đẹp của phu nhân đã làm cho tôi say đắm vì tình.
Ce que vous dites en creux, c'est que Molière est peut-être aussi, à sa manière, un agent de la décolonisation.
Absolument, oui, tout à fait. Molière fait partie d'un dispositif assez intéressant, puisque celui-là même qui était censé justement imposer la langue française et la langue du colonisateur et participer à ce projet civilisateur va être celui qui va être retourné par les jeunes qui ont bénéficié de cette instruction comme la source de leur émancipation. En gros, les jeunes vietnamiens expliquent aux Français que, puisque leur référence, c'est un auteur qui prône la liberté de conscience, la libre pensée et la souveraineté, eh bien, ça doit s'appliquer aussi à eux et qu'ils vont en tirer toutes les leçons en leur demandant de bien vouloir quitter le pays. Donc, il y a une sorte de retournement, de renversement très intéressant de la lecture qui peut en être faite et un certain désarroi, d'ailleurs, des élites coloniales qui s'étaient un petit peu désintéressées de ce répertoire-là et qui probablement n'avaient pas mesurer le potentiel subversif que ça représentait dans le contexte de la prise de conscience et des aspirations à l'indépendance.
Là, on évoque l'Indochine, Martial Poirson. Il faut aussi dire un mot de l'Afrique noire, parce que avant la décolonisation, on joue Molière en Afrique noire. Et là, contrairement à ce que certains pouvaient penser à l'époque, énorme succès de Molière sur les populations locales.
Oui, alors là, on a des témoignages assez intéressants, notamment un comédien qui s'appelle Pierre Riguel, qui a écrit un Molière en Afrique noire, préfacé par Louis Jouvet, qui le félicite de ce projet et qui est vraiment animé par une rhétorique totalement imprégné par l'idéologie du missionnaire. Il explique qu'il est déguisé en broussard, qu'il va en gros évangéliser les bons petits Africains. Et il arrive comme ça, plein de ferveur et de conviction, avec son Molière, qui est mélangé à d'autres pièces, notamment vaudevillesques, en fait. Hein. Et puis les pièces vaudevillesques ne marchent pas du tout. Le théâtre de divertissement n'intéresse pas du tout les jeunes Africains. En revanche, une ferveur absolue à l'égard du théâtre de Molière. Et on constate dans ce témoignage, qui est une sorte de journal de bord au jour le jour, le désarroi grandissant de cet homme qui est vraiment un homme formé à cette idée de mission civilisatrice, très très sûr de l'hégémonie française et de la supériorité de sa culture, et qui va comprendre que finalement il y a une réception de ce théâtre qui est tout à fait inattendue, à la fois d'une extrême ferveur, d'une extrême intelligence, et parfaitement compatible en fait avec les modes de vie et les valeurs locales qu'il est censé au contraire faire disparaître. Donc on voit vraiment dans ce témoignage des descriptions très précises, des réactions de très jeunes enfants dans des zones rurales, dans des missions, dans des gymnases, dans des hangars, où donc on va jouer Molière pendant quasiment 2 ans.
Dépêchez-vous les enfants, voilà les premiers clients qui arrivent.
Si tu veux que t'appelles.
Oui, on verra tout à l'heure, plus tard, plus tard.
Plus exactement, ce sont des clientes, de jeunes écolières d'Abidjan.
Ah, parce que vous jouiez pour les écoles.
Nous jouions surtout pour les écoles, c'était même notre objectif principal. La jeunesse d'outre-mer étudie bien en classe les œuvres de Molière et de Racine, mais n'a jamais l'occasion de les voir représentées.
Qu'allez-vous leur jouer, là?
L'avare.
Et on ne parle jamais de vous que sous les noms d'avare, de vilain, de ladre et de fesse Mathieu.
Est-ce que vous pensez, Martial Poirson, comme Jamel Debbouze, que si Molière se réincarnait aujourd'hui, il serait africain?
Alors, oui et non. Il est vrai que dans le théâtre promu par Jamel Debbouze, dans le Jamel Comedy Club, toute cette génération de jeunes artistes issus de l'immigration qui vont mettre en place des formes très performatives, comme le stand-up, comme voilà, donc ce théâtre d'adresse très directe, il y a probablement quelque chose de l'ordre du Molière farceur, du Molière saltimbanque, du Molière issu du peuple dont on parlait. D'un autre point de vue, on peut considérer aussi que ce théâtre est un théâtre qui est imprégné par la question raciale, et que peut-être les enjeux autour des conflits entre classes sociales, des conflits entre genres, entre sexes, qui sont à l'œuvre dans le théâtre de Molière, peuvent se transposer sur la question qui est devenue la question aiguë de notre époque, hein, c'est-à-dire les conflits non plus simplement générationnels, sexuels et sociaux, mais raciaux, avec toutes les guillemets que suppose ce terme. En revanche, je pense que l'expression est évidemment provocatrice, c'est que Molière n'appartient à personne, pas plus finalement au peuple africain aujourd'hui qu'à la France. Le Molière du 21e siècle, en tout cas, celui qui, je l'espère, sera promu par ce quadricentenaire, est un Molière sans frontières, est un Molière hors de l'hexagone, est un Molière fondé sur toutes sortes de réappropriations culturelles qui font apparaître des significations nouvelles et peut-être inédites.
Ça, c'est important, Martial Poirson, parce que quand on observe et quand on lit vos travaux et vos recherches, on est frappé par cette dimension transnationale. On a le sentiment que Molière, la France, l'auteur français, la gloire nationale, évidemment qu'il est français, mais il n'est pas que français, loin de là.
Oui, absolument, et ça c'est le miracle finalement de Molière, qui à la fois est complètement emprisonné, comme on l'a vu, dans ce programme idéologique qui était celui de la colonisation française et de cette langue de Molière qu'on continue à utiliser comme une expression usuelle, et en même temps, force est de constater que où qu'on regarde, et moi j'ai essayé de pointer du doigt sur à peu près tous les continents la façon dont Molière aujourd'hui pouvait ou non faire sens, y compris dans des contextes assez compliqués comme en Amérique latine, parce qu'en Amérique latine il y a une imprégnation religieuse catholique qui reste encore très forte, et donc on pourrait penser que Molière, l'athée, Molière, le laïcard, enfin en tout cas tel que la France l'a promu, ferait fonction de repoussoir, et non pas du tout. En fait, les fourberies de Scapin sont jouées dans toute l'Amérique latine, parfois même dans des dialectes très très locaux. Donc il y a une réappropriation, il y a une réinvention. L'exemple pour moi le plus troublant, c'est l'Afrique du Nord, puisque là on a vraiment un travail autour de Molière qui est tout à fait fascinant, avec des artistes comme Taïeb Sadeki. Taïeb Sadeki, c'est quelqu'un qui a été formé par Jean Villard, qui a passé 2 ans à l'intérieur de la troupe du Théâtre National Populaire et qui ensuite est reparti au Maroc avec l'idée de faire la première troupe de Théâtre National Populaire marocain. Et c'est ce qu'il a fait à partir des années 56, avec une part très importante du répertoire consacrée à Molière, à la fois le répertoire, traduit en arabe, et en même temps des pièces qu'il a inventées, Molière ou Pour l'amour de l'humanité en 1994, qui est une sorte de lettre ouverte, d'acte d'amour à l'égard d'un Molière qui, dit-il, est le plus méridional de tous les auteurs qui ne sont pas des auteurs de langue arabe, et qui est une sorte de trait d'union, justement, entre tous les peuples de la Méditerranée.
Écoutons maintenant la version marocaine du Malade imaginaire, qui a été jouée au Théâtre des Nations en juin 1958.
اتصارى هي ديال اللي لعبوا شو داك بولاي العشوبي دراجلها جبروكني يا مسكين وختامين عليك بالسعالي وتراطبوا صحاس هما ما بيهم شي حاجه في وكرت ليزاتك والله ينزل عليك مسخ.
Donc il y a une vision générique de ce théâtre, et c'est ce qu'on constate aussi quand on écoute les témoignages de comédiens en tournée qui vous racontent la même chose, toujours cette même ferveur à l'égard du théâtre de Molière, où qu'il se trouve, et qui vous raconte aussi que quand on parle de mariage arrangé, de trafic autour de la dot, dans des pays où ces questions ne font pas partie de l'histoire, bien évidemment, ça prend une résonance toute particulière. De même que quand on parle dans un pays totalitaire, ou dans un pays où le pouvoir religieux est extrêmement prégnant, y compris dans les arcanes du pouvoir politique, et ben là, de nouveau, effectivement, jouer le théâtre de Molière prend une dimension subversive que peut-être il a partiellement perdue en France et en Europe de l'Ouest, je dirais, mais à la lumière duquel on peut justement, nous aussi, retrouver finalement cette force politique primitive.
En conclusion de ce 9e épisode, il faut redire combien Molière fut et demeure l'ambassadeur de la République française. Quand vous charriez les archives de l'INA, c'est sidérant de constater à quel point, depuis 80 ans, les reportages pullulent sur le rayonnement mondial de Molière, comme cette tournée nord-américaine en 1957.
Aux États-Unis, nous avons eu la chance de terminer notre séjour en jouant dans la grande salle des Nations Unies, le Misanthrope de Molière. C'était la première fois que l'on y donnait du théâtre, et le secrétaire général avait tenu à ce que ce soit la voix de Molière qui résonne la première dans cette grande salle des Nations Unies où se joue le sort du monde.
Alors, cet aimable Molière, unificateur, réconciliateur et grand auteur du grand siècle, peut-il être utile au temps présent ?
On aimerait qu'il soit vivant pour pouvoir être de ses amis, si possible. Et ce n'est pas un sentiment qu'on éprouve à l'égard de Racine ou de Corneille, alors qu'on aura envie de connaître Molière et d'être son ami.
Faire de Molière son ami et refaire avec lui société, c'est l'horizon du dernier épisode.
Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Toute notre équipe vous remercie pour votre attention. Bon après-midi.
Molière, le chien et le loup. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Assistance éditoriale, Estelle Gap. Documentation sonore, Clary Monac. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, à quoi ça sert, Molière? Molière, le chien et le loup est un podcast original de France Inter avec la Comédie Française.